Ceci est un exposé de Lutte ouvrière sur le thème du télétravail. Avec l'épidémie de Covid-19, le télétravail s'est généralisé, alors qu'il concernait à peine 7% des salariés en France, essentiellement des cadres qui étaient volontaires et qui le pratiquaient plus ou moins régulièrement. Il a touché rapidement plus de 8 millions de salariés, près d'un sur trois. Mais ce n'était plus au volontariat. La situation nouvelle créée par le confinement a poussé les entreprises à l'utiliser massivement dès lors que le poste de travail le permettait. Cette expérience, imposée à une grande échelle, a accéléré un processus déjà en cours et changé la donne. Les médias et les commentateurs s'en sont fait largement l'écho. Le télétravail était présenté comme le moyen d'être plus autonome dans son travail, de concilier plus facilement les temps de vie professionnels et personnels, et il permettait de supprimer les longs et coûteux transports quotidiens. C'est sans doute vrai pour certains salariés qui vivent loin de leur entreprise et qui ont de l'espace chez eux pour s'installer correctement. Pour ceux qui sont déjà à l'étroit dans leur logement, c'est une autre histoire. En fait, loin d'être une aspiration générale, le télétravail peut vite se révéler être une nouvelle contrainte, acceptée plus facilement aujourd'hui à cause des risques liés au virus que l'on aurait encouru au travail ou dans les transports pour y aller. Et puis, est-ce vraiment une nouveauté ou au contraire un retour en arrière à l'enfance du capitalisme? Les formes de travail à domicile existaient avant même le développement des usines, lorsque des femmes ou des hommes filaient et cousaient des pièces de textile chez eux. Si la couturière, penchée sur sa machine à coudre, a laissé la place à la travailleuse du clic, enchaînée à son ordinateur, elles ont en commun d'être mal rémunérées, souvent à la pièce ou à la tâche, ce qui oblige à de longues heures de travail pour s'assurer un revenu minimum. Cette forme de travail peu qualifiée et précaire, qui existe toujours, semble bien loin du télétravail actuel. Car si celui-ci s'est développé à l'époque d'Internet et des ordinateurs accessibles à tous, il a bénéficié de l'existence d'une réglementation du travail issue des luttes du passé, qui impose des horaires, un salaire minimum, une indemnité en cas d'accident ou de perte d'emploi. Un accord cadre européen de 2002, décliné dans la loi française en 2005, a établi l'égalité de traitement entre le télétravailleur et le travailleur, ainsi que le caractère volontaire et réversible du télétravail. Mais ces dernières années, le télétravail a subi le même détricotage que le Code du travail. La loi Warsmann de 2012, dite abusivement loi de simplification du droit des entreprises, a facilité la remise en cause de l'horaire hebdomadaire de travail. Puis la loi El Khomri, en 2016, et les ordonnances Macron, en 2018, ont laissé l'employeur libre de réguler la charge de travail au lieu de compter en heures de travail. Elles ont également supprimé la prise en charge par l'employeur des frais supportés par le salarié, comme l'électricité ou la connexion Internet. C'est dans ce contexte de déréglementation du travail et d'aggravation de l'exploitation qu'il faut voir l'évolution actuelle vers toujours plus de télétravail. Il ne s'agit pas de peser les avantages ou les inconvénients du télétravail pour chacun, car il diffère forcément d'un salarié à un autre, selon le temps de trajet qui s'ajoute à la journée de travail, ou en fonction de la nécessité de garder ses enfants, d'assister un parent malade ou âgé. Et cela dépend aussi des conditions de travail subies à l'entreprise, lorsqu'elles sont trop dégradées, avec le bruit, la pression qui stresse toujours plus, ou lorsque la hiérarchie devient trop écrasante, l'envie de s'en isoler en travaillant chez soi est grande. Mais le salarié qui a été volontaire, lorsqu'il s'agissait de télétravailler un jour ou deux par semaine, pourrait bien changer d'avis lorsque le télétravail s'imposera comme son lot quotidien, qu'il souffrira d'isolement, de troubles musculo-squelettiques ou de maladies liées à une trop grande sédentarité. En tout cas, il faut être convaincu qu'en poussant dans le sens du télétravail, le patronat n'est pas plus sensible à la souffrance au travail de ses salariés qu'il n'est guidé par l'amélioration de leurs conditions de vie en général. Il y voit d'abord son intérêt, pas du tout virtuel celui-là, mais bien sonnant et trébuchant. Quand un patron explique que le télétravail entraîne un plus grand engagement de ses salariés, ça signifie d'abord qu'ils enchaînent les heures de travail sans compter. Ainsi, le temps de travail peut augmenter considérablement, tandis que le salaire reste le même. Ce qui va déterminer la durée du travail, ce n'est plus un certain nombre d'heures, mais les tâches fixées par l'employeur, le délai qu'il juge bon pour les exécuter et les résultats qu'il en attend. Alors quand les syndicats revendiquent le droit à la déconnexion, ils sont loin du compte face à cette pression constante pour travailler plus que subissent nombre de salariés en télétravail. Lorsque le même patron parle d'amélioration de la qualité du travail, il faut entendre par là une meilleure productivité. Une employée d'une plateforme téléphonique en télétravail pendant le confinement racontait que loin de son plateau bruyant, elle n'avait plus de maux de tête, ce qui en soi est évidemment appréciable. Mais elle ajoutait que travailler isolée chez elle permettait de traiter davantage d'appels dans la même plage horaire, d'autant qu'elle n'avait plus avec ses voisins de plateau les petits échanges qui permettent de décompresser régulièrement. Toujours dans le souci d'accroître leur rentabilité en profitant de toutes les aubaines possibles, certaines sociétés ont profité du confinement pour mettre leurs salariés en chômage partiel, donc payés par l'État, tout en leur faisant faire du télétravail. D'autres leur ont imposé de faire la moitié de leur semaine en télétravail, le reste étant pris en jours de congé ou RTT, sachant que pour terminer la tâche demandée, il fallait intensifier le travail et réaliser en 2 jours celui de 4. Et il y a encore un autre aspect dans la généralisation du télétravail que le DRH de Peugeot appelle une opportunité à saisir. En proposant que le télétravail devienne la norme 4 jours sur 5 pour tous les salariés du groupe PSA qui travaillent sur un ordinateur, il prépare des économies colossales sur le foncier et l'entretien de milliers de mètres carrés de bureaux. Cette nouvelle organisation du travail sera avant tout une affaire juteuse pour les actionnaires. Bien sûr, la volonté d'économiser sur le prix du mètre carré n'est pas nouvelle. La flambée des prix de l'immobilier à Paris ou dans les grandes agglomérations avait déjà poussé bon nombre de banques ou de compagnies d'assurance à déménager régulièrement leurs sièges et leurs bureaux en fonction des prix du marché, imposant du même coup des trajets à rallonge à leurs employés. PSA lui-même n'y avait pas échappé, quittant en 2017 son siège historique mais coûteux de la Grande Armée pour s'installer à Ruelle Malmaison. À peine 2 ans plus tard, en 2019, le groupe se débarrassait de son nouveau siège social pour brinque-baller les 750 employés et cadres restants dans ses locaux de Poissy et Vélizy. Beaucoup d'entre eux étant déjà en télétravail 1 jour par semaine ou plus, il n'y avait plus besoin d'attribuer un bureau à chacun. Les salariés pouvaient les occuper à tour de rôle, en fonction de leurs jours de présence, ce qui fait toujours moins de surface à financer. Mais PSA vise aujourd'hui des économies à une toute autre échelle. Pendant le confinement, le télétravail est passé de 18 000 à 38 000 salariés sur l'ensemble du groupe à l'échelle mondiale, et il pourrait concerner dans le futur 80 000 salariés, en comptant les secteurs administratifs, commercial et de la recherche et développement. Annoncé dès 2019 par Tavares, le PDG, la réduction de 14% des mètres carrés de l'entreprise devrait être vite dépassée. Cela permettra par la même occasion de supprimer les frais engendrés par la restauration collective, le chauffage, le ménage ou encore la participation au transport. Les entreprises du numérique, les Facebook, Twitter ou Google, annoncent également la poursuite du télétravail après l'épidémie. Au-delà de son ambition de soi-disant « servir le monde », Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a surtout celle de servir ses profits en faisant des économies sur les infrastructures ainsi que sur les salaires comme il l'a annoncé. Car pour faire venir ses employés dans la Silicon Valley où l'immobilier est hors de prix, il les incitait financièrement par des salaires plus élevés. S'ils peuvent quitter maintenant cette zone pour s'installer dans des régions moins chères, leur salaire pourra être diminué d'autant. Mais l'étape suivante, c'est la poursuite de l'exploitation à l'origine du profit, sans même la protection collective forgée au cours de la lutte de classe par tous les combats menés par des générations de travailleurs. Ainsi, l'informaticien qui serait à son compte pourrait vendre à une grosse société le résultat de son télétravail. Qu'adviendra-t-il alors lorsqu'il tombera malade ou que l'entreprise choisira d'utiliser les services d'un autre ? Après l'explosion de la précarité imposée par le travail en intérim, les CDD, la multiplication des petits boulots plus ou moins déclarés, on a vu se développer les statuts d'indépendants ou d'auto-entrepreneurs avec ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Mais si un chauffeur de VTC Uber peut se sentir à son compte sans avoir de chef sur le dos, il est obligé de faire des horaires toujours plus longs pour gagner à peine sa vie. Et la plateforme qu'il emploie, elle, en décidant du nombre de courses et de leurs tarifs, prélève largement sa part. Finalement, le revenu digne et l'indépendance qu'espéraient nombre d'auto-entrepreneurs s'est révélé n'être que misère et dépendance. Derrière la fable d'un travail qui serait soi-disant libéré des contraintes aliénantes du salariat, il y a toujours la lutte de chaque jour pour gagner de quoi vivre. Tant que le travail n'est pas débarrassé des tâches et des horaires harassants imposés par l'exploitation capitaliste, il est illusoire de penser pouvoir choisir librement son sort. Tous les discours sur la prétendue rigidité du contrat de travail ou les 35 heures qui handicapent l'économie vont dans le même sens. Utiliser le marasme économique et le chômage de masse pour imposer toujours plus de recul à la condition ouvrière. Cette déréglementation du travail et l'aggravation de l'exploitation sont à la base de l'accroissement des profits malgré la crise. Ce n'est pas le confinement qui a créé la disposition de certaines entreprises au télétravail. C'est toute l'évolution du capitalisme qui y pousse, comme y pousse, vers l'auto-entrepreneuriat. Quels que soient les changements imposés par cette évolution, ils se feront d'abord contre nous, tant qu'une minorité s'accaparera le fruit du travail collectif. Le fond du problème, c'est de lutter contre l'exploitation elle-même, quelles que soient les formes qu'elle prend, nouvelles ou pas d'ailleurs. C'est cette nécessité, cette conscience de classe qu'il faut réimplanter. Si l'évolution actuelle du capitalisme contribue à émietter le monde du travail, tant que l'exploitation perdurera, elle fera surgir des militants pour la combattre, des grèves, des résistances multiples. Par le passé, la concentration des ouvriers dans de grandes entreprises a facilité le développement des organisations ouvrières, de la conscience de classe. Mais il y a eu aussi les grandes luttes des Canuts de Lyon, ces travailleurs à domicile qui s'insurgèrent d'abord contre la baisse du tarif des pièces de soie qu'ils tissaient jour et nuit, mais aussi contre le pouvoir au service des fabricants qui les exploitaient durement. Et ces dernières années, les femmes de ménage des grands hôtels, les coursiers de Deliveroo, les aides-soignantes des maisons de retraite ont su mener des grèves longues, déterminées. Être éparpillées dans des petites structures présente certes des difficultés pour s'organiser et revendiquer, mais ils ont su le faire. La solidarité et la conscience de classe naissent aussi de la multitude de tous ces combats. Aujourd'hui, le statut de salarié comme le code du travail sont toujours plus attaqués et ils ne protégeront pas les travailleurs contre la déchéance du chômage. Dans la guerre de classe qu'ils mènent, le patronat se servira de la crise liée au coronavirus pour avancer ses propres exigences. Tant que les capitalistes détiendront les clés de l'économie, ils la feront fonctionner selon ce qui les arrange, eux, et leur intérêt prime sur celui de la société. C'est pour cela qu'ils poussent, dans le sens du développement du télétravail, qu'ils ouvrent la porte vers un auto-entrepreneuriat de masse, avec tout ce que cela entraîne de démolition de la condition du salariat et des conventions collectives. Mais les obstacles liés à l'émiettement du monde du travail ne sont pas insurmontables non plus. Ce qui comptera, c'est la conscience qu'au-delà de nos différences de situation et de statut, nous avons des intérêts communs d'exploiter et que nous devrons nous battre collectivement pour arracher le droit à vivre décemment de notre travail. Et même plus loin, nous devrons nous battre pour l'émancipation sociale et une société débarrassée de l'exploitation.